La grande voile, de forme triangulaire, s'établit le long du mât.
Débat et société.
Actualité étudiante et associative.
Du lundi au jeudi, 18h-18h30.
Voguez sur les ondes de l'information locale avec l'Optimiste.
La quasi-quotidienne de Radio Campus Angers.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Optimiste. Ce soir au programme, votre capitaine de bord vous propose une interview d'Élie et Baptiste, bénévoles dans l'association Contact 49 qui accompagne les jeunes et les moins jeunes de la communauté LGBTQIA+ dans leur relation à leurs parents. On aura aussi le plaisir d'accueillir Benoît d'Infoscope qui, pour sa première chronique, nous parlera des Simpsons et de Luc Desclasses. En tout cas, ajustez bien vos gilets de sauvetage, installez-vous car ce soir ça secoue dans l'Optimiste. Avec moi dans le studio, Lohan. Salut Lohan.
Salut.
Tu es en stage avec nous et c'est toi qui vas poser quelques questions aux deux membres de l'association Contact 49.
On accueille Élie et Baptiste, tous les deux bénévoles à l'association Contact 49, créée en 2008, qui a pour but de faciliter la communication entre les personnes lesbiennes, gays, bi et transgenres et leurs familles. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Donc vos objectifs, c'est d'aider les familles et les amis à comprendre l'orientation sexuelle et l'identité de genre de leurs proches, de donner les clés aux personnes LGBTQIA+, pour mieux s'accepter. Votre association lutte contre les discriminations et a pour objectif de prévenir du suicide dans cette communauté. L'association Contact 49 était d'ailleurs présente à la Pride d'Angers le week-end dernier et organise régulièrement des groupes de parole. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a donné envie de vous engager à l'association Contact? Peut-être aviez-vous déjà participé à des groupes de parole?
Alors, moi, qui est Baptiste, j'ai eu une intervention en milieu scolaire pendant mes années de lycée qui m'a permis de comprendre mon homosexualité et en même temps... Qui m'a permis à en parler.
De bien parler dans le micro, s'il te plaît. Ouais, merci pour nos auditeurs.
Qui m'a permis à aussi en parler à mes parents, qui s'en doutaient plus que tout, mais ça m'a permis de lancer le sujet après cette intervention en milieu scolaire. Et dès que j'ai eu 18 ans, je me suis intéressé pour reprendre contact avec l'association. Et quand je suis arrivé sur Angers il y a un an et demi, j'ai repris contact pour devenir bénévole.
Et toi?
Alors moi, Élie, simplement, j'ai vécu un coming out très difficile dans ma famille. Les relations étaient vraiment très perturbées. Et c'est ce qui m'a décidé, en fait, ayant eu beaucoup de soutien de la part du milieu associatif lorsque je l'ai découvert. Et je sais que c'est un pas qui n'est pas évident à passer. Et ça me semblait essentiel de pouvoir justement apporter ce témoignage, l'ayant particulièrement éprouvé, en fait, personnellement.
Donc c'était dans un souci de partage de témoignages?
C'était dans un souci de partage et de, effectivement, de pouvoir quelque part redonner ce qui a pu être apporté en soutien à un moment donné.
Donc en faisant partie de cette association, pardon, vous avez pu le constater, le coming out des personnes LGBT peut faire basculer les relations familiales. On sait que bien souvent, les personnes LGBT sont préoccupées par la peur du rejet avant de faire leur coming out. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles on vient vous voir?
Oui, ça peut être simplement des personnes qui sont en questionnement bien avant le coming out, en fait. Des personnes qui se questionnent, que ce soit des jeunes adolescents ou des adultes qui ont déjà eu une vie classique hétéronormée et qui sont simplement en plein bouleversement. Et on accepte effectivement toutes les personnes, quel que soit là où elles en sont dans leur questionnement. Donc ça peut être déjà bien avancé sur des questions d'orientation sexuelle classique entre guillemets, bien sûr, désolé pour le terme maladroit, sur lesbienne, gay, bi, mais ça peut être une question d'identité de genre, effectivement. L'association Contact s'est ouverte depuis quelques années, parce qu'historiquement c'était plus des parents qui encadraient des groupes de parole sur des questions lesbienne, gay, bi, Et la transidentité est venue simplement s'ancrer parce qu'il y a une libération de la parole et de la visibilisation. Et donc on a pu suivre cet espace-là et de l'ouvrir aussi pour les personnes en questionnement là-dessus.
Donc vous êtes un espace d'accueil et de soutien ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut y trouver comme accueil, comme soutien ?
Alors on peut avoir des rendez-vous individualisés. On a aussi les groupes de parole qui se déroulent soit un samedi ou soit un mercredi par mois. Donc le prochain, c'est le
11 juin.
11 juin.
Je vais te demander, excuse-moi, au lieu de nous dire des choses très pratico-pratiques, oui. Ce que toi tu as trouvé. Pourquoi est-ce que toi tu es venu dans l'association Contact ?
Alors c'est pour aider les jeunes qui sont, que ce soit au collège ou au lycée, à pouvoir affronter des questions par leurs camarades ou par leurs profs aussi, puisque j'ai eu des questions par mes profs, voire même des discriminations par mes camarades et mes profs. Donc ça serait pour les sensibiliser à ce qui est norme. On parle de normalité, mais voilà, ce qui est normal et pas normal, des réflexions qu'on nous fait, tout ça. Donc je suis plus axé sur la scolarité et la discrimination et le consentement aussi.
Donc, finalement, beaucoup de choses qui sont en dehors simplement du coming out.
Alors ça en fait partie quand même, puisque le coming out, il n'y a pas que aussi dans la famille. On doit l'assumer aussi. Par exemple, moi, j'ai dû l'assumer, que ça soit au lycée, avec mes camarades, avec mes profs. Il n'y a pas que dans le cadre familial aussi. Puisque parfois, nous avons même des amis d'LGBT, excusez-moi, qui viennent dans l'association faire des groupes de parole ou poser des questions. Donc, on est aussi sur le thème de la prévention à l'homophobie, au consentement aussi, en faisant des interventions en milieu scolaire ou même hors scolaire. C'est pareil, on peut aller dans les entreprises pour sensibiliser sur l'homophobie en entreprise ou même la transphobie en entreprise, ou même des fois il y a des entreprises qui nous contactent juste pour savoir mais quel mot approprier sur la transidentité ou même sur les termes qu'il faut dire, qu'il ne faut pas dire en entretien. Donc nous pouvons conseiller aussi les entreprises là-dessus.
Donc toi, tu as déjà mené des entretiens ou des groupes de parole ?
Alors non, mais par contre, j'ai déjà participé à des groupes de parole en tant que participant et non en tant que quelqu'un qui les anime. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir écouter d'autres témoignages que... le sien, puisque va y en avoir qui vont répercuter sur nos...
On a besoin que tu parles dans le micro pour que nos auditeurs puissent t'entendre. Pardon, excuse-nous, continue.
Répercuter sur nos histoires aussi personnelles, puisque le plus souvent, ça fait écho à certaines situations qu'on a vécues, ou même que d'autres, on a vu d'autres en vivre, donc c'est parfois on peut se remettre en question, on peut se dire on n'est pas tout seul, et c'est ce que beaucoup de personnes en participant au groupe de parole et d'écoute se disent en fait. Voilà.
Donc aujourd'hui, on le sait, les mentalités sont plus ouvertes, pourtant il y a toujours ce même choc face à un coming out. Donc pourquoi, d'après votre expérience, malgré l'évolution des mentalités sur l'identité de genre et les orientations sexuelles, les coming out peuvent toujours choquer les proches, la famille ?
Je pense que ça a surtout à voir avec les représentations qu'on peut avoir en tant que parents. C'est lié à l'éducation, c'est lié aux générations, certes, mais il y a aussi tout ce qu'on peut imaginer sur notre enfant, sur son futur. Sur ce qu'il pourrait construire, et du coup ça vient casser tout ça en fait. Ça vient casser ce que les parents s'étaient imaginé pour leur enfant en parcours de vie classique, et ça vient aussi éveiller des craintes, des peurs pour leur enfant. C'est pas forcément tout de suite verbalisé en premier, Mais après, c'est comme toute étape, en fait, c'est un cheminement d'acceptation. Donc il y a une première étape forcément de colère qu'on est capable d'accueillir à contact. Baptiste évoquait tout à l'heure le fait qu'il avait participé à des groupes de parole. En fait, il est jeune bénévole depuis peu de temps à contact. Et les groupes de parole sont facilités, on parle de facilitation, par des personnes qui sont formées à l'écoute, en fait, auparavant, en interne, au national, par un formateur spécifique. On ne laisse pas l'animation des groupes... Comme ça, parce qu'effectivement, il y a cet accueil qu'on propose et qui est un accueil quelque part inconditionnel, quel qu'en soit où en est la personne. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des parents, des enfants qui viennent, il peut y avoir des parents qui sont encore dans la phase où c'est compliqué pour eux de faire face à l'homosexualité ou la transidentité de leur enfant. Et puis en face, il peut y avoir des enfants qui viennent de faire leur coming out et où ça s'est très mal passé. Il faut pouvoir accueillir l'ensemble des réactions, de ce qui se passe et pouvoir mener tout ça en fait dans la bienveillance, dans l'écoute de chacun, et dans le respect bien sûr, et dans l'anonymat.
Donc ça veut dire que parfois vous êtes confronté à des situations où vous devez faire de la sensibilisation face à des personnes pour qui c'est très difficile?
Alors en fait, le rôle premier, ça va être forcément de les écouter là où ils en sont. Et ça va être la difficulté d'identifier justement ce qui peut être là où en est leur état d'esprit face à ce qu'ils ont appris en fait. Et c'est pas forcément verbalisé tout de suite. Il y a des choses qui ne se disent pas, qui sont dans l'attitude, qu'il faut savoir reconnaître, qu'il faut savoir lire. Et puis il y a des choses qui vont faire écho, qui vont entendre dans le groupe, et qui vont permettre d'avancer dans leur acceptation face à leur enfant, ou face à leurs proches, parce qu'on n'accueille pas que des parents ou des enfants, il y a aussi les frères et sœurs, les amis. C'est assez ouvert. On est forcément un groupe assez tolérant.
Comment est-ce que vous travaillez avec des personnes qui sont ouvertement homophobes en face de vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Je crois que ça a pu arriver par le passé. Alors on rappelle forcément les choses qui sont de l'ordre de ce qui relève de la discrimination. Mais après, nécessairement, s'il y a une attitude de rejet, on essaye de chercher à provoquer la réflexion chez la personne qui peut l'évoquer à ce moment-là, si elle est en capacité de l'évoquer, de ce qui a pu poser difficulté. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? En quoi c'est difficile? En quoi c'est difficile pour le parent d'accepter que son fils est gay?
Et pourquoi c'est difficile?
Parce qu'il y a un imaginaire.
Un imaginaire
très souvent. Ouais. Les représentations qu'on peut avoir, les références qu'on peut avoir.
Si jamais une personne vient vous voir, qu'elle a envie de faire son coming out, comment est-ce que vous l'accompagnez? Qu'est-ce que vous lui dites pour rendre l'annonce plus facile?
Baptiste, je ne sais pas si tu veux...
Oui, peut-être que Baptiste, puisque Baptiste, tu as été accompagné récemment, tu peux nous faire part aussi de ton expérience. Enfin, tu es arrivé bénévole récemment oui. Au sein de l'association.
Alors, je pense qu'on... Je sais que dans les rendez-vous individualisés, on ne donne pas des conseils, mais plutôt on écoute et on essaye à ce que la personne s'oriente elle-même vers ses réponses et ses solutions à ses problèmes. Donc, en étant un nouveau bénévole, je ne suis encore ni formé à l'écoute, ni même aux IMS. Mais.
Même où?
Aux IMS.
Intervention milieu scolaire.
Excusez-moi, on a des. Donc, je sais qu'on va pouvoir l'accompagner dans son chemin vers l'acceptation et vers même son coming out envers ses proches et sa famille. Mais on va pouvoir. Être quelqu'un qui va l'écouter plus que de le conseiller, en fait.
On n'est pas là, en fait, pour dire à la personne, tu vas passer par telle étape, et il faut faire ci, ça, ça, etc. C'est pas notre rôle. Notre rôle, il est vraiment d'accueillir la personne là où elle en est. Et on échange, elle échange les parcours, les récits des personnes qui ont traversé les étapes à différents moments. Et c'est en écoutant parfois et au groupe d'écoute et de parole suivant ou au rendez-vous suivant qu'il y a quelque chose qui va se passer, il va y avoir un déclic et ça va permettre d'avancer sur son questionnement. Mais on n'est en aucun cas là pour orienter, quelle que soit l'histoire ou le chemin où on en est.
Donc aujourd'hui, grâce au climat actuel plus ouvert pour les personnes LGBTQIA+, qu'est-ce qui existe pour accompagner le coming out, les coming out difficiles? Des choses qui n'existaient pas avant, par exemple?
Je pense qu'il y a la ligne d'écoute qu'on peut citer.
Oui, il y a la ligne d'écoute qui est ouverte, si je ne me trompe pas, excusez-moi.
La ligne d'écoute nationale, en fait.
Ouais. Il y avait les horaires avant, mais je ne sais.
Oui, il y a toujours les horaires, en fait. Il y a une ligne d'écoute nationale, en fait, qui est un numéro vert.
Dont on peut rappeler le numéro.
Oui, qui est le 0805 69 64 64. Qu'on peut joindre, on peut laisser un message si on n'a pas quelqu'un en direct, parce que toutes les associations Contact, c'est une entité nationale. Et donc il y en a de chaque département. Et chaque département tient des permanences d'écoute qui sont réparties. Et donc du coup, il y a des messages si on n'a pas quelqu'un en direct, et on peut rappeler les personnes et échanger avec ces personnes de manière anonyme et gratuite.
Quand on a préparé l'interview, on a aussi nommé entre nous l'association Le Refuge. Oui. Des associations comme les vôtres, c'est aussi des structures nouvelles, relativement nouvelles.
Alors non, puisque Contact existe depuis 1993. La première antenne de Contact a été créée en 1993 par...
Oui, c'est en Contact France, tu veux dire.
Oui. Oui. C'est la première antenne.
Oui, c'est la première antenne. Ouais. C'est vrai que ça a été assez récent. C'est pour ça, quand on parlait de génération, effectivement, sur ces espaces d'accueil qui sont complètement apolitiques et religieux, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, puisque c'est la ligne de conduite aussi de Contact.
Vous n'êtes pas du tout militant ?
On est militant pour proposer un espace d'accueil et d'écoute, ouvert à tous et à toutes, quel que soit l'âge, la raison, l'orientation, le questionnement identitaire.
Donc, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que la discussion avec vos parents respectifs, a été simple? Si vous voulez bien y répondre.
Alors, moi, totalement simple, puisque mes parents avaient déjà été sensibilisés à l'homophobie et tout ce qui s'ensuit derrière, puisque je ne suis pas le seul membre de ma famille à l'être homosexuel. Donc, ils avaient déjà pu poser leurs questions à l'autre membre de ma famille. Et donc, ça a été agréablement bien accepté par mes parents, et voire même encore aujourd'hui, vu que je suis en couple, moi et mon compagnon, quand on va dans ma famille, nous sommes des membres à part entière et non exclus, comme pourraient l'être certaines personnes de leur famille.
Pour toi, Ellie ?
Moi, si je dois parler de mon parcours, il est complètement différent. Il est en deux phases, donc... Si je parle de la première phase, je me suis construit sur une identité de lesbienne. Donc j'ai eu un rejet de la part de mes parents lorsque j'ai fait mon coming out. Ça a été assez violent, très difficile. À l'époque, j'arrivais pas à trouver de soutien forcément associatif. J'étais jeune. Maintenant, si on parle de dernièrement, de mon parcours de vie qui a évolué. Justement, j'avais peur sur ce nouveau coming out, puisque je suis une personne transgenre. J'avais peur que mes parents me rejettent à nouveau, et au final ça s'est hyper bien passé. Je dis pas que tout est rose, il y a encore des choses qui sont à améliorer dans nos relations, mais le lien est toujours là, il est toujours maintenu.
En tout cas, est-ce que des structures comme Contact peuvent accompagner dans ce genre de moment?
Oui, en l'occurrence c'est même le cœur de notre association, justement. Oui.
Selon l'Observatoire des inégalités, sur 160 personnes sondées en 2017, la moitié disent avoir été victimes d'insultes de la part de leur famille après leur coming out, et 80% d'une forme de rejet à cause de leur homosexualité. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous semble juste?
Ça me semble juste, oui, effectivement, et peut-être même en deçà par rapport à tous ceux qui n'ont pas pu le formuler et le signaler, en fait, ou tout simplement accéder à cette révélation.
C'est vrai qu'encore aujourd'hui, quand on se dit il y a quand même des mouvements militants très importants, des mouvements de libération de la parole qui sont très importants, que ces chiffres soient... Alors, ils datent de 2017, entendons-nous. Ceci étant dit, c'est quand même des chiffres énormes qui font froid dans le dos.
Certes, mais après, moi j'ai envie de retenir qu'il y a énormément d'assos au niveau local même, qui sont très investis, et on peut les citer pour des assos plus militantes comme le Quasar, le centre LGBTQI+. Il y a également des associations différentes comme Tonix qui sont plus de l'ordre du loisir, mais il y a des choses qui existent, il y a le refuge, bien sûr, il y a les associations comme Reboot qui sont essentielles par rapport à notre identité. Il y a des choses qui sont faites par et pour les personnes sur des questions bien précises. Si on parle par exemple de Reboot, c'est du soutien communautaire trans, pour toutes les questions trans. Il y a aussi Quasar qui met en place des groupes par rapport à ça. Nous, on est ouvert à toute question, et c'est là la différence, juste, c'est qu'on peut accueillir toute personne, on n'est pas sur une thématique précise, en fait.
Est-ce que, au contraire, le coming out peut parfois être un élément d'amélioration dans, des relations dans le cercle familial ?
Je pense, pour ma part, oui. Ça m'a permis de révéler qui je suis vraiment, en fait. Il y a ce truc où on lâche le côté « je joue un rôle pour faire plaisir à papa-maman », quoi. Et du coup, c'est bah ouais, on fait tomber le masque.
Ça facilite qui on est et quelle image on donne à voir de nous-mêmes.
Oui, bien sûr, puisque ça permet à ce qu'on soit beaucoup plus ouvert à la discussion, moins sur notre garde, quand on discute de sujets sur l'homosexualité par exemple. Moi je sais qu'avant de faire mon coming out à mes parents, quand on parlait d'homosexualité, soit je me taisais, ou soit je répondais aux questions, mais je survolais la question, disons, pour ma réponse, mais voilà, on n'en parlait pas plus. Maintenant, eh ben, on peut avoir des discussions de plus de 3 heures sur l'homosexualité, voire même des débats. Chacun donne son opinion et tout se passe très bien.
Tout ça dans une bienveillance nécessaire.
Ah oui, bien sûr.
Merci beaucoup, Élie et Baptiste, d'avoir répondu à nos questions. Donc, vous êtes tous les deux bénévoles à l'association Contact 49. Pour ceux qui désirent plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Contact qui est www.asso-contact.org. Je vous rappelle que le prochain groupe d'écoute et de parole que vous organisez se déroulera le samedi 11 juin à 16h, 4 places Jean Villard à Angers.
Alors le lieu est à reconfirmer, mais vous pouvez suivre les dernières infos sur Facebook, hein, voilà. Sur les réseaux.
Évidemment. Merci beaucoup, Loan, pour cette interview.
Merci à vous.
Avant de poursuivre, petite respiration dans l'Optimiste, nous allons vous proposer un poème lu par les membres de l'association Éclat, partenaire de la radio, un poème de la poétesse russe Anna Akhmatova, lu en russe donc, mais par une réfugiée ukrainienne à Angers.
Древній город словно вимір, странен мой приїзд. Над рікою своєю Владимир підняв чорний крест. Ліпи шумні в'язи по садам темні. Звезды глистые алмазы к Богу взнесены. Путь мой жертвенный и славный здесь окончу я. И со мной лишь ты мне равный, да любовь моя. Лето 1914 года.
Киев. L'antique cité s'est comme éteinte. Étrange est mon arrivée. Au-dessus de son fleuve, Vladimir a levé une croix noire. Les tilleuls sonores et les ormes assombrissent les jardins. Les étoiles hérissées de diamants pointent vers Dieu. Mon chemin de gloire et de sacrifice, je l'achèverai ici. Et avec moi, il n'y aura que toi, mon égal et mon amour. Le poème que nous venons d'entendre est de Anna Akhmatova, poétesse russe née en 1889 à Odessa. Elle a fait ses classes de terminale à Kiev et est morte en 66 à Moscou. Elle est considérée comme une des plus grandes poétesses russes, poétesse engagée contre le stalinisme. Son écriture vise la simplicité et la concision de la langue.
Yeah.
De retour sur le 103FM, on vient de s'écouter Roubaix de Yokai. Il est exactement 18h27 et c'est l'heure de la chronique de nos partenaires d'Infoscope. Et on accueille Benoît dans le studio. Salut Benoît.
Salut Hugo, salut à toutes et à tous.
Aujourd'hui, tu vas nous raconter une petite histoire qui t'a beaucoup marqué. Cette histoire, c'est celle de salariés de l'énergie qui perdent leur mutuelle dentaire sur décision de la direction patronale, de leur direction patronale, obsédée par les économies et la baisse du coût du travail.
Tout à fait. Alors face à cette décision injuste qui prive de soins dentaires les salariés et leurs familles, les employés réagissent, ils s'organisent, ils élisent un nouveau secrétaire syndical, ils se mettent en grève et après des jours, voire des semaines de bras de fer, ils obtiennent le maintien de leur mutuelle dentaire, ils ont gagné et vaincu leur direction patronale.
Ça s'est passé où cette histoire ?
Cette histoire, elle s'est passée dans une bourgade américaine qui répond au nom de Springfield. Ah. Le chef du syndicat, c'est le fameux Homer Simpson, l'anti-héros de la série animée du même nom. Alors oui, c'est de la fiction. Le machiavélique Monsieur Burns, le patron de la centrale nucléaire, tente d'acheter l'approbation et le silence des salariés avec un fût de bière, ce qui marche quasiment. Le fût de bière contient une caméra, pas du tout discrète, pour espionner le syndicat, mais personne s'en rend compte. Homer, devenu syndicaliste, s'imagine en mafieux gavé de donuts. Et puis, c'est son homophobie et son envie de pisser qui lui permettent finalement de gagner les négociations sur des quiproquos complètement foireux. N'empêche, cet épisode sorti en 1993 correspond à une réalité sociale de l'époque qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. En effet, les entreprises ont depuis 30 ans été éclatées en une galaxie hiérarchisée allant des fonds d'investissement d'actionnaires aux filiales en passant par les maisons mères jusqu'aux sous-traitants et aux auto-entrepreneurs à travers le monde. Aussi, les rapports de production ont été individualisés. En gros, quand on a un pépin au boulot, on est tout seul face à une direction bien rodée, et si cette dernière veut nous sucrer la mutuelle dentaire, nous mettre la misère, on se retrouve comme des cons. Je sais pas si on a le droit de dire con à l'antenne, c'est ma toute première chronique.
Écoute, tant que tu le dis pas trop fort.
Donc je disais donc, on se retrouve comme des cons, parce que la mutuelle dentaire, on la perd vu qu'il n'y a plus d'orgas syndical dans la plupart des boîtes. Donc plus de solidarité de classe entre exploités, entre salariés. À partir de là, à partir de ce constat, un petit peu amer, on peut devenir une espèce d'antéchrist gothique, fataliste et cynique en se disant que bon, les riches et les pauvres, les exploiteurs et les exploités, les heureux et les malheureux, de toute façon, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Du coup, on tire la couverture à nous, on écrase nos collègues et après nous, le déluge. Ou bien, on relève la tête et on s'en sert de sa tête pour penser un moyen de recréer cette solidarité populaire qu'il y avait avant. Et en fait, des moyens, il y en a plein. La jeunesse et les associations nous le prouvent tous les jours dans la pratique. Il n'y a pas que grailler des merguez en manifestation qui compte, même si les manifs syndicales, heureusement qu'elles sont toujours là, parce que si on a encore toutes nos dents, c'est un peu grâce à elles. Et bon courage Adam pour faire mieux mercredi prochain.
Merci beaucoup Benoît pour cette chronique. Et j'en profite pour vous rappeler que le service pédiatrique du CHU d'Angers entame sa troisième semaine de grève pour réclamer une légitime prime de soins, qu'ils appellent soins critiques, et évidemment pointer du doigt un manque de personnel et de moyens. C'est la fin de cet optimiste. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Loan pour cette première interview avec nous. C'était Étienne à la technique et à la programmation musicale. Demain, c'est férié, alors profitez bien et nous, on se retrouve dès lundi. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Écoutez l'émission sur le www.radiocampusangers.com.